Bonsoir à tous nos auditeurs de Radio Grand Ciel dans l'émission Histoire d'en savoir plus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, c'est l'instrumentarium de Chartres et l'histoire des instruments médiévaux. Et pour parler de ce sujet, j'accueille aujourd'hui le président de l'instrumentarium de Chartres, M. André Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour, comment allez-vous ?
Très bien, merci de m'accueillir pour évoquer l'instrumentarium de Chartres, et bien sûr on parlera des instruments et de la musique.
Oui, tout à fait. Alors André, pour mieux vous faire connaître de nos auditeurs, et en quelques mots, voulez-vous nous parler un peu de vous et de votre parcours ?
Eh bien, j'étais instituteur, je suis devenu conseiller pédagogique en éducation musicale, et à ce titre, j'ai eu en charge l'atelier musique de la classe patrimoine Chartres Vivre au Moyen-Âge en 1990. J'ai eu l'idée donc de partir des représentations d'instruments dans la statuaire, les verrières et la clôture du chœur, sans oublier bien sûr de sensibiliser les élèves au plein chant.
Non, c'était un atelier extrêmement enrichissant, j'imagine, tant pour le professeur que pour les enfants.
Oui.
Merci André. Maintenant, nous allons aborder le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire l'instrumentarium de Chartres. En fait, comment vous est venue cette passion ?
Bien, j'ai commencé avec l'aide de Jean Villette et des collègues de la classe patrimoine à répertorier ces représentations pour m'apercevoir que ce travail n'avait jamais été fait dans la cathédrale de Chartres, et j'ai appris depuis dans peu de cathédrales, que les vieillards de l'Apocalypse, par exemple, n'étaient pas des musiciens, que suivant les traductions de la Bible, les instruments ne portaient pas le même nom, et que la cathédrale de Chartres battait tous les records, à savoir 312 représentations de 26 instruments différents.
Je vous coupe la parole, André. Les vieillards de l'Apocalypse, c'est qui ?
Alors, les vieillards de l'Apocalypse, ce sont les vieillards emblématiques de la cathédrale de Chartres. Et on les trouve, l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, qui en compte beaucoup, hein, 63.
Oui, oui.
Et ces vieillards, ils sont représentés trois fois à la cathédrale. Et ils ont dans une main une coupe de parfum et dans l'autre main un instrument de musique. Coupe de parfum, ils ne sont pas parfumeurs, c'est le symbole de la prière qui monte vers le ciel, et musiciens, ils ne sont pas musiciens, ce sont simplement des adorateurs.
D'accord.
C'est la louange à Dieu.
D'accord, merci. Je vous laisse poursuivre.
Oui. Alors pendant toutes ces années, on a donc mené, et c'est une des particularités de ce projet, nous avons mené en parallèle la recherche et le travail pédagogique avec les élèves. Ce travail a été édité par la Société archéologique de Raye-et-Loire en 1996. Et je vais vous donner lecture de ma conclusion.
D'accord.
Comme ça, vous comprendrez la suite des événements. Je lis. Un instrument de musique n'est réellement vivant que lorsque l'homme s'en empare et le fait sonner. Serait-il utopique d'espérer entendre sonner dans la cathédrale, aujourd'hui, les cordes, vents et percussions que nous ont laissé en image les artistes du Moyen-Âge et de la Renaissance? Non, puisqu'aujourd'hui, l'instrumentarium de la cathédrale de Chartres est en construction. Avec plaisir, nous pourrons bientôt entendre le psaltérion, les vielles et la harpe, représentés au portail ouest, ainsi qu'un orgue portatif qui s'inspirera de celui sculpté dans la clôture du chœur. Merci à tous ceux qui permettent la réalisation de cette utopie et aux musiciens qui feront sonner la pierre de Chartres. C'est grâce à l'association LACMEC que cette première partie de l'instrumentarium de Chartres a pu être construite avec, il faut le dire, un partenariat du Crédit Agricole.
Bien, merci. Mais je suppose qu'il y a déjà eu au moins un concert donné en la cathédrale de Chartres.
Oui. Alors, c'est-à-dire que dès 1996, dès qu'il y a eu les six premiers instruments restitués, il y a eu donc le premier concert en septembre 1997, joué par la Morache, avec l'ensemble Fulbert. Alors, ce qui était particulier dans ce concert, c'est que nous avons fait en sorte que les luthiers portent les instruments et viennent les offrir aux musiciens. C'est-à-dire, l'idée, c'est on passe du savoir-faire des œuvriers au savoir-faire des musiciens. Et entre les deux, il y a le savoir-faire des luthiers, qui sont les intermédiaires. Alors, la même représentation, enfin les mêmes musiciens, ça a donné lieu à un enregistrement dans la crypte de la cathédrale en 1998, avec en plus, et ça j'étais très, très heureux, la maîtrise du Conservatoire de Chartres.
Belle initiative en tous les cas, c'est très intéressant d'apprendre tout cela. Maintenant que nous en savons un peu plus sur l'instrumentarium en lui-même, parlons des instruments. Nous savons que certains de ces instruments présentés figurent toujours sur les façades de la cathédrale de Chartres. André, pouvez-vous nous dire sur quelle façade exactement ces instruments sont représentés et y sont-ils en très grand nombre ?
Oui, alors comme je vous ai dit, il y en a 312 représentations. Alors il faut le dire, 168 sur la clôture du chœur. Ce qui n'empêche qu'on en a, par exemple, 39 au portail royal. On en a 31 au portail sud. Bon, au portail nord, il n'y en a que 3, et voilà. Et dans les verrières, on en a 56. Et on a même des instruments qui sont représentés dans la crypte, sur les peintures. Mais là, je vous invite à prendre une lumière puissante et d'avoir une bonne vue.
D'accord, ça sera la prochaine occasion. Après toutes ces belles informations qui vont permettre aux nombreux auditeurs qui nous écoutent de mieux comprendre justement l'instrumentarium de Chartres, nous allons faire une petite pause musicale et nous allons écouter un morceau de l'une de vos pièces musicales. André, je vous laisse la parole.
Expliquez-nous. Oui, alors je vous propose tout d'abord l'œuvre d'un troubadour anonyme du XIIe siècle. Ça s'appelle « Alantrada del Tansclar ». Vous entendrez une vielle piriforme, celle du jongleur qui est au portail ouest, un tambour carré qui est dans le vitrail du fils prodigue et une flûte à bec qui est dans la clôture du chœur, plus des grelots représentés au portail ouest avec le centaure qui les a autour du ventre.
Autour du ventre. Merci beaucoup. Passons à la musique. Cette pause musicale qui nous donne déjà un avant-goût de cette musique jouée avec des instruments anciens, nous allons reprendre le dialogue avec André Bonjour, président de l'Instrumentarium de Chartres, qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être parmi nous. Alors André, maintenant que nous avons évoqué la création de l'Instrumentarium, nous allons parler des instruments médiévaux. Comment s'est opérée cette recherche d'instruments ? Comment déterminer l'importance dans la musique médiévale de ces divers instruments ? Et quel a été le fil conducteur de la pensée, de la recherche?
Alors, la recherche s'appuie à la fois sur des travaux personnels, sur une association qui s'appelle l'APMUTAM, alors qui est peu connue, c'est l'Association pour l'étude de la musique et les techniques dans l'art musical, médiéval, pardon, qui existe depuis 30 ans, dont je fais partie, et qui est spécialisée dans l'iconographie romane et la recherche des instruments dans l'iconographie, bien sûr, plus un groupe de recherche à la Sorbonne qui s'appelle Musiconis. Mais je crois ce qu'il faut bien comprendre, et on était assez satisfait de notre colloque en 2014, parce qu'on a réussi à faire la preuve que la recherche n'est absolument rien sans le savoir-faire des luthiers, des facteurs d'instruments et des musiciens.
Ça me semble tout à fait évident, bien sûr.
Ah, c'est pas évident pour tout le monde, vous savez, les gens, si vous me permettez l'expression, il y a des gens qui sont chacun dans leur chapelle et qui n'en bougent pas.
Qui n'en bougent pas, oui.
Alors,
oui.
Nous avons aujourd'hui, on a restitué, puisque c'est le terme juste, 40 instruments. 8 cordes frottées, 9 cordes pincées, 16 instruments avant et 7 percussions. Et nous avons passé commande d'un cornet à bouquins à Serge Delmas, que j'ai accueilli dans la cathédrale samedi dernier. Vous voyez, c'est pas vieux. Et nous envisageons encore un triangle, qui a une particularité, c'est avoir des petits anneaux dessus, une paire de cymbales et peut-être une petite flûte à quatre trous qu'on trouve dans la clôture du chœur dans le groupe de la Nativité. Alors dès aujourd'hui, il faut le dire, la ville de Chartres a financé un ensemble unique en Europe et sans doute dans le monde.
Ça c'est important, il fallait le dire, hein, c'est sûr. Dans tout cela, il a fallu faire également des recherches sur les matériaux, André, tels que le bois, les plaquages, les éventuelles insertions de nacre ou autres pierres précieuses. On pouvait déjà savoir à cette époque quel bois avait été utilisé pour ces instruments, un peu comme pour les mobiliers, vous savez, anciens, où chaque région avait son type de bois. Voilà.
Oui, alors, une des difficultés dans ce travail, c'est qu'il n'y a aucun instrument qui nous soit resté de cette période, puisque les matériaux utilisés, par définition, pourrissent, s'abîment.
Oui, bien sûr. Oui.
Alors, il est évident aussi que les luthiers ont utilisé des bois près de chez eux. Ils n'allaient pas chercher en Amazonie.
Bien sûr. Hein,
voilà. Alors, sur le site de l'Instrumentarium de Chartres, il y a absolument tous les renseignements sur les matériaux. Je vais simplement en donner trois exemples pour montrer comment ce travail est fait. Il y a d'abord la vielle du jongleur qu'on a entendu tout à l'heure au portail royal. La caisse et la table sont en érable. Le chevillier et le cordier. Alors, le chevillier, c'est les chevilles à un bout et le cordier, c'est les cordes bout.
Oui. Hein,
voilà.
Oui.
Et c'est en alisier. Et les cordes sont en boyau d'agneau qui ont été réalisées par le luthier lui-même, Olivier Pont.
Alors, dans ces différents bois, je pense à l'érable et à l'alisier, est-ce que ce sont des bois qui se travaillent tous les deux facilement, de la même manière? Est-ce que ça n'impacte pas sur le travail de l'un? Du bois, enfin de l'érable, ou l'érable n'impacte pas sur l'alisier. Si vous comprenez ce que je veux dire.
Oui, non, mais hein, bien sûr. Alors,
parce que c'est pas toujours.
Le problème, c'est qu'il faut justement que les luthiers connaissent parfaitement leur bois.
D'accord.
Si vous regardez caisse et table, alors là aussi, c'est quelque chose que les recherches nous ont fait découvrir il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, quand vous construisez un instrument à cordes, un violon par exemple, vous mettez une planche qui va servir de fond, vous mettez une planche qui va servir de table, vous tracez et vous découpez des morceaux de bois qui vont servir d'éclisse, et vous collez le tout et vous installez le manche. On sait aujourd'hui qu'au Moyen-Âge, les instruments étaient monoxyles. C'est-à-dire qu'en fait, on prenait un morceau de bois, on taillait la forme, par exemple, de la vielle piriforme, et on creusait la caisse. Ce qui est une pratique qui existe toujours, et depuis que ça existe, en Afrique par exemple, avec les instruments africains ou les instruments traditionnels.
D'accord. Ah,
donc
oui.
Donc c'est, la vielle des jongleurs a été construite. Et à ça, donc, vous ajoutez cheville et cordier, mais dans des bois différents, parce qu'il va falloir que cheville et cordier soient dans des bois plus durs.
Oui.
Alors que caisse et table... Il faut absolument que caisse
d'accord.
et table résonnent.
Oui, tout ça pour éviter aussi le
bois
qui
travaille. Et les vibrations.
Et les vibrations, ah,
voilà.
Oui.
Alors voilà, pour donner un exemple.
D'accord.
Un exemple plus complexe, l'orgue portatif, le dernier qu'on a fait construire, puisqu'on en a deux, qui est du modèle de la clôture du chœur. Alors vous avez les tuyaux, c'est un petit orgue. 87% en plomb, 13% en étain. Les bouchons qui ferment les tuyaux sont en tilleul. Le buffet, lui, est en houx, alors c'est un bois dur. Le clavier est en lilas, arbre, encore bois, encore plus dur. Et le soufflet est en tilleul et cuir, et les bretelles en cuir. Donc vous voyez que, là encore, le facteur d'or, qui est un Allemand, Marcus Ostal, a utilisé des matériaux différents suivant la fonction qu'ils ont
qu'il
l'instrument
fallait
lui-même.
Donner dans l'instrument.
Voilà, c'est
d'accord.
Ça. Et puis, dernier exemple, eh bien, pour la harpe de Jubal, qu'on entendra tout à l'heure, du portail nord, l'ensemble, caisse, console et colonne, sont en fait sculptés dans la masse en aulne flottée. Alors, j'explique. Une des différences, sans doute, avec le traitement du bois, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu de réserves de bois très ancien, 20 ans, 30 ans, et bois qui était flotté, c'est-à-dire dans l'eau pour être complètement nettoyé, purifié.
Oui.
Et, ça. Et les chevilles et les boutons de cette harpe sont en os.
D'accord.
Les cordes en boyau de mouton, et la finition, c'est peinture et feuilles d'or. Donc, on a à chaque fois la recherche de matériaux qui, musicalement, donneront le maximum
et s'accorderont avec l'autre,
voilà.
Les autres bois qu'on va y insérer.
Mais en même temps, il faut que ces bois soient dans le coin.
Dans l'environnement.
Et je connais un luthier actuellement qui est dans le sud-ouest. Et il est dans une région où il y a tellement de chênes qu'il s'est dit... On a dû fabriquer des vielles en chêne. Donc il est en train d'essayer de faire une vielle en chêne.
Il va peut-être y réussir.
Ah, pourquoi pas?
Parce qu'il n'y a pas de mystère non plus. Hein.
Non.
C'est un peu comme les meubles, hein, c'est bien ce que je disais.
Il devrait réussir.
Voilà. André, j'imagine aussi qu'à cette époque, il y avait de nombreux artisans, comme pour la fabrication d'un luth, d'une viole ou de carillon. Vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur ces artisans. J'imagine qu'il y avait des compagnonnages.
Bien sûr. Alors, il paraît évident aussi, mais il faut le rappeler, ils ne nous ont pas laissé de vidéos. C'est ce que j'explique aux élèves. Ce qui fait que il y a des choses qu'on est bien obligé soit d'imaginer, soit d'aller chercher dans des documents ou dans l'iconographie. Alors, il est évident que les jongleurs, c'est-à-dire ceux qui jouaient la musique, pour la plupart, fabriquaient aussi leur instrument. Je rappelle qu'un jongleur était un musicien nomade.
Oui.
Très, très peu étaient attachés définitivement à une cour, même s'il y en avait. Donc, les matériaux régionaux, sans doute pas coûteux, même si des plus riches pouvaient se le permettre. Je vais vous donner là encore trois exemples. La première travée de la clôture, il y a une cornemuse. On l'a restituée. Le sac est en cuir. Chalumeau, buffoir, c'est-à-dire là où on remplit d'air, et bourdon sont en prunier. Sac en cuir, le cuir, cousu, c'est cher, c'est riche. Il y a à la deuxième travée un instrument qui s'appelle une vessie. Eh bien, il est fait, le sac est fait dans une vessie de vache, tanné à la cendre pendant 4 semaines.
Parce que ces deux instruments vont donner des sons complètement différents.
Complètement différents.
Parce qu'il y a un sac en cuir pour l'un et le sac en vessie pour l'autre.
Et puis, vous avez d'un côté le prunier et de l'autre côté, vous avez un instrument qui est fait avec du sureau.
D'accord.
À la 11e travée, vous avez ce qu'on appelle une bousine. Le sac est une vessie de porc tannée à la cendre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est évident que bousine et vessie, avec du sureau, on imagine bien l'instrument fabriqué à la campagne, dans le monde rural, par des troubadours, par des jongleurs, qui pouvaient prendre le matériel sur place.
Voilà, ils l'avaient sur place, ils pouvaient servir.
Et ce dont on est sûr, c'est que si on veut un sac qui n'ait pas de fuite, les vessies, c'est impeccable. Par contre, le cuir supposait déjà un travail, donc une dépense supplémentaire. Donc, il y avait sans aucun doute des musiciens, des jongleurs qui avaient du matériel de qualité supérieure, on va le dire comme ça. Alors ça, c'est sans doute ceux qui étaient attachés à une cour et qui avaient une vie assurée. Et puis les autres, moins riches, qui faisaient avec ce qu'il y avait
autour d'eux. Merci André pour toutes ces précisions qui sont vraiment intéressantes, ce qui permet également une meilleure compréhension de ce que est d'une part l'instrumentarium et d'autre part les instruments médiévaux. Nous allons à nouveau faire une courte pause musicale, toujours sur des morceaux de cette musique ancienne. Je vous laisse la parole, expliquez-nous André.
Alors, on va entendre un extrait des Cantigas de Santa Maria du XIIIe siècle, cette fois-ci, Nacar Ometer Folia, ce qui va nous permettre d'entendre une vielle en 8 et la petite harpe du porche sud. Et les nacaires, qui sont des petites percussions de la chapelle Saint-Pierre. Les nacaires que l'on va entendre là ont des fûts en cuivre. Thank you.
Eh bien, après cette très jolie musique qui nous donne envie de danser, nous revoici sur Radio Grand Ciel dans l'émission Histoire d'en savoir plus, en compagnie de Monsieur Bonjour, président de l'Instrumentarium de Chartres. Maintenant, André, si vous le voulez bien, il y a aussi votre équipe de musiciens et de chanteurs. Combien sont-ils? Quel est le rôle de chacun?
En effet, pour jouer de ces instruments, nous avons créé un ensemble de 4 musiciens professionnels qui s'appellent les musiciens de l'Instrumentarium de Chartres. Alors François Joannel qui joue des harpes, le psaltérion et la rote, Nicolas Sansarla qui joue les vielles et archets, l'organetto et les chalmis, Maxime Fiorani, percussion, chalmis et flûte, et Xavier Terrassa qui non seulement est directeur artistique, mais il est également spécialiste des instruments à vent, mais en fait il est polyinstrumentiste et spécialiste des lectures des manuscrits. J'ajoute que ces 4 musiciens sont également chanteurs. Mais pour élargir la connaissance, on a créé également le chœur médiéval de Chartres, qui a une caractéristique, c'est qu'il n'est pas indispensable de savoir lire la musique. On pratique la pédagogie qui se pratiquait au Moyen-Âge, et j'ai l'habitude de dire qu'on continue de pratiquer à l'école maternelle, c'est l'enseignement oral.
Et c'est peut-être le plus intéressant et le plus direct pour apprendre, peut-être plus facilement.
Absolument.
À apprendre.
Et puis ça permet de développer l'oreille.
Oui, non seulement ça, ça développe aussi l'esprit.
Absolument. Et petit à petit, on va vers la partition, mais oui. Tranquillement. On a également créé un atelier de pratique musicale pour des musiciens, cette fois-ci, qui veulent jouer des musiques médiévales et en découvrir les techniques, qui dans un premier temps en jouent avec leur propre instrument. Hein. Et puis là, pour cette année, on vient de créer un troisième atelier, un atelier d'initiation, qui est quelque chose de nouveau, parce que ça va s'adresser, alors je vais vous donner la définition qui me fait rire, à ceux qui n'y connaissent rien et qui souhaitent découvrir et jouer ensemble.
Oui, c'est mon cas.
Voilà. Et donc, dans un premier temps, cet atelier se déroulera, comme c'est Véronique Gantès-Voigt qui va s'en occuper et qu'elle est harpiste, avec des instruments qui sont des harpes faites en bois et carton.
D'accord.
Mais qui musicalement sont très justes. Et j'ajouterai que cette année, l'UCTL accueille un cycle de cours sur l'histoire de la musique médiévale qui sera donné par Xavier Terrassa.
Alors, ce groupe de musiciens et de chanteurs médiévaux se sont déjà produits, hein, j'imagine, avec un beau succès. On peut raconter peut-être, André, les différents spectacles qu'ils ont donnés en
oui.
France et ailleurs, peut-être.
Alors, je vais revenir au premier dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que ce qui était très agréable, c'est qu'il y a des élèves du collège Jean Moulin qui étaient costumés. Et donc, il y avait Pierre Dedreux, qui est trouvert, avec sa femme, Alix de Thouars, et qui sont ceux qui ont donné la Rose Sud, où il y a les vieillards de l'Apocalypse. Et puis, ils étaient suivis de leurs cours et suivis des luthiers et des facteurs d'instruments qui portaient leurs instruments, qu'ils ont été offrir aux musiciens. Donc, le savoir-faire le passage, la transmission du savoir-faire à un autre. Et puis, pour moi, il y a les nombreux concerts avec les élèves dans la crypte et ailleurs. Concert malheureusement aujourd'hui impossible, faute de subventions, et c'est dramatique parce que ça veut dire que pour l'instant on n'arrive plus à faire entendre que ce qui se passait jusqu'à maintenant, la musique aux jeunes élèves. Et je dois dire aujourd'hui que c'est dommage parce
c'est
que.
C'est bien dommage.
Oui, et y compris à Chartres, nous avons fait l'expérience avec des collégiens, bien sûr, des lycéens, l'école primaire, mais aussi avec les écoles maternelles avec qui on a fait un bon travail. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et puis, il y a des concerts, alors, souvent dans des petites églises, mais comme Guinville, Lucé, Mêlée-le-Grenet, avec, n'est-ce pas, les Danses Macabres, Marville ou Vichère, samedi prochain.
Bien.
Mais nous sommes allés également au Havre, à Bourges ou Évreux. Alors, on espère aller bientôt dans une ou dans plusieurs villes jumelées avec Chartres.
Ah ben,
pour nous, serait...
Ben, ce serait le top.
Serait là. Intéressant, bien sûr. Alors moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est l'attention du public, et puis la qualité des discussions après le concert.
Ouais.
Alors, il y a deux types de discussions, enfin, il y a deux thèmes. Un, les gens qui sont surpris et qui disent, bon, en fait, c'est pas si vieux que ça, votre musique, là, c'est même moderne pour certaines choses. Donc, les gens sont agréablement surpris. Et puis, la curiosité par rapport aux instruments.
Aux instruments, surtout.
Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire comment ils sont construits, quels matériaux utilisés, comment vous faites pour savoir que c'était comme ça, voilà. etc., etc. Et ça, c'est vrai pour chaque concert.
Et c'est intéressant. Et
c'est sûr.
Et le public, justement, s'intéresse de plus en plus. Vous savez, le bouche à oreille, ça fonctionne aussi dans ces cas-là. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment une toute nouvelle... une innovation, justement, de faire connaître la musique médiévale. Surtout à Chartres, où on est... c'est quand même le berceau, on va dire, entre autres,
la cathédrale qui a le plus d'instruments représentés dans le monde.
Oui, tout à fait. Bon, on revient donc au programme pour la saison qui vient de démarrer, par exemple, pour les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'on peut acheter des DVD de ces chansons entraînantes?
Alors, on a, dans notre contrat d'objectif avec la mairie, il y a la résidence chaque année des musiciens pour qu'ils travaillent leur répertoire. Au début juillet, dans l'église de Fresnay-le-Gilmer, nous avons enregistré, le disque sera prêt en novembre. Eh bien, je reviendrai présenter le disque quand il sera sorti, je vous en ferai la primeur.
Tout à fait.
Et puis, je vous dis, samedi, on va jouer à Vichères.
D'accord. Donc, le message est passé. André, merci beaucoup de votre passage à Radio Grand Ciel pour parler de l'instrumentarium de Chartres et de cette passion et de cet enthousiasme qui vous caractérise tellement. Les auditeurs, je suppose et je l'espère, garderont dorénavant une oreille attentive à votre répertoire. N'oublions pas cependant que vous pouvez vous inscrire à l'instrumentarium de Chartres et faire partie du chœur médiéval animé par Xavier Terraza. André, je vous laisse le soin d'indiquer comment faire et où s'adresser.
Le plus simple, c'est d'aller sur le site de l'instrumentarium, instrumentariumdechartres.fr. Vous n'oubliez pas avant, 3xW.
Je vous remercie. Merci pour tout encore, André. Notre émission se termine avec une pointe de regret, mais avec une note joyeuse quand même, tout en remerciant nos auditeurs pour leur écoute de cette nouvelle histoire d'En Savoir Plus sur la radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes. Et je vous laisse le mot de la fin, André, pour parler du dernier morceau que nous allons écouter.
Eh bien, on entend une danse composée par Claude Gervaise au XVIe siècle qui s'appelle Branle simple 3. Chalmi, tambour, harpe et lyra.
Merci André, à bientôt, j'espère.